Nous, hein, on vous retrouve un petit peu plus tard. Paris meurtri ce matin au réveil sidéré. Paris vidé de ses habitants également. Alice Posicky, vous êtes en direct au pied de la Tour Eiffel. Il y a bien entendu très peu de monde.
Oui Alexandra, là où habituellement les touristes se bousculent pour accéder aux étages de la Tour Eiffel, il n'y a à cette heure qu'une centaine de personnes. Ce sont essentiellement des touristes étrangers qui souhaitaient visiter le monument mythique. Mais la Tour Eiffel n'a pas ouvert ses portes ce matin. L'ambiance, elle est vraiment étrange. Hein. La faible affluence, conséquence directe des événements d'hier, eh bien, cette faible affluence, elle tranche avec certains comportements, tout ce qu'il y a de plus léger, à l'image de ce groupe d'amis qui se prend en photo, tout sourire aux côtés des policiers et des militaires qui effectuent des patrouilles. Cela rassure certains, cela en effraie d'autres, comme ce touriste allemand venu avec son frère et qui décrit une sorte de malaise à Paris. Car cette ambiance, Alexandra, elle se retrouve dans les rues, le métro, dans d'autres lieux touristiques aussi. Je me suis rendue au Quai Branly, un musée situé à quelques centaines de mètres de la Tour Eiffel. Les jardins qui bordent ce musée ont ouvert quelques heures ce matin. Les chemins étaient déserts, silence de plomb. Une poignée de visiteurs seulement et parmi eux, une Parisienne passionnée de ce lieu culturel. Elle s'est dit choquée par les attaques d'hier, mais elle insiste, elle refuse de rester chez elle et compte bien ne pas laisser ces événements l'empêcher de vivre.
Alice Posicky en direct de la Tour Eiffel. N'hésitez pas à nous rappeler, Alice, si vous voyez quelque chose de significatif ou si vous avez du témoignage. Ces opérations de carnage ont débuté au Stade de France qui accueillait une rencontre de football France-Allemagne. Il était 21h20, Franck Alexandre. Une première explosion est entendue aux abords du stade.
Première explosion à la 20e minute du match France-Allemagne. Puis une seconde, 6 minutes plus tard, Alexandra. Une troisième enfin à la mi-temps, mais dans l'enceinte sportive, personne n'a encore pris conscience de l'attaque. Trois kamikazes viennent de faire sauter leur ceinture d'explosifs. Une personne est tuée. Un attentat suicide de ce type, c'est une première en France. Rapidement, mise au courant, François Hollande, qui assiste à la rencontre, est alors exfiltré par ses services de sécurité. Le stade est bouclé, plus personne ne peut entrer ni sortir, mais le match se poursuit comme si de rien n'était. Ce n'est qu'au coup de sifflet final que les forces de l'ordre procèdent à l'évacuation dans un calme relatif.
Alors 78 000 personnes se trouvaient dans ce stade. La plupart, Franck, n'ont pas compris tout de suite ce qui se passait, à l'image de cet Alsacien venu spécialement assister à la rencontre.
Nous, on a entendu des explosions au début du match, mais on pensait pas du tout que c'était des explosions dangereuses, etc. On pensait que c'était un pétard.
Vous avez cherché à gagner à la sortie à la fin du match et vous êtes finalement rentré dans le stade.
C'est-à-dire qu'on nous a prévenu qu'il fallait prendre deux sorties spécifiques, mais quand on a vu qu'il y avait des gens, un mouvement de foule qui est revenu d'une entrée vers la pelouse, eh ben on a suivi le mouvement parce qu'on comprenait pas du tout. On n'a pas été informé du tout de ce qui se passait. C'était assez la surprise.
Et quasi au même moment, des attentats en plein Paris, tirs de Kalachnikov, les plus soutenus dans les 10e et 11e arrondissements de la capitale, Franck.
Et les terroristes sont arrivés en voiture, ils sont 4 ou 5 après celui du Stade de France. C'est le deuxième commando identifié. Équipé d'armes automatiques, ils rafalent plusieurs terrasses de café, de restaurants, des terrasses bondées. La météo aussi prête, rue Alibert, dans le 10e arrondissement. La terrasse du restaurant Le Petit Cambodge est rafalée, 12 morts. Rue de la Fontaine-au-Roi, dans le 11e, c'est une pizzeria qui est visée. 5 morts, enfin, rue de Charonne. L'horreur s'abat sur un restaurant japonais. 18 morts. Léa, jeune parisienne, se trouvait là.
J'étais en train de marcher, j'ai commencé à entendre des détonations, des tirs. Des gens remontaient à contresens en courant. Quand les tirs se sont arrêtés, on est sortis pour voir s'il y avait des blessés. Et donc, il y avait beaucoup de monde au sol. Les gens qui étaient autour de moi ont vu une voiture noire partir avec au moins deux personnes à bord avec des fusils.
Et c'est le Bataclan qui paie le plus lourd tribut avec un bilan provisoire de 82 morts.
Quatre terroristes se sont introduits dans la célèbre salle de spectacle du quartier de la République. 1500 personnes sont là pour assister au concert d'un groupe de métal californien. Et c'est un carnage, une fusillade aveugle. Les kamikazes hurlent « Allah Akbar ». Ils auraient aussi invoqué l'intervention militaire française en Syrie pour justifier leurs actes. Vers minuit, la police donne l'assaut. Trois kamikazes viennent de se faire sauter. Le quatrième est abattu par la police. Le chaos est total. Julien était dans la salle.
Trois ou quatre individus non masqués sont rentrés avec des armes automatiques de type Kalachnikov et ont commencé à tirer à l'aveugle sur la foule. Ça a duré au moins une quinzaine de minutes. C'était extrêmement violent. Évidemment, il y a eu un vent de panique. Il y a eu des scènes de piétinement. Je me suis moi-même fait piétiner. Et j'ai vu beaucoup de personnes blessées par balles. J'ai vu une dizaine de cadavres sur le sol, de personnes très blessées dans des mares de sang. Les assaillants ont eu tout le temps de recharger à plusieurs reprises. Ils n'étaient pas masqués, ils étaient très jeunes.
Voilà donc pour ce témoignage au Bataclan hier soir. Le Bataclan qui paie, on l'a dit, le plus lourd tribut. Bilan provisoire de 82 morts. Nous sommes à présent en ligne avec Nicolas Falaise. Nicolas, vous êtes passé devant le Bataclan il y a quelques minutes. Quel paysage au lendemain de ce carnage ? Nicolas, vous m'entendez ?
Devant le Bataclan, un dispositif policier barre toujours l'accès à la salle de spectacle, mais autour des barrières métalliques, il y a un petit attroupement des habitants du quartier. Pour la plupart, j'ai rencontré l'un d'entre eux. Chez lui, a été appelé par la police. Il m'expliquait avoir ressenti ce matin le besoin de sortir, d'aller voir les lieux des différentes attaques d'hier soir, des endroits qu'il connaît et qu'il fréquente, le Bataclan, mais aussi la rue Bichat et la rue de Charonne, des endroits situés à quelques minutes de marche seulement d'ici. Visiblement choqué, cet habitant du 11e.
Nicolas, on va essayer de vous rappeler un petit peu plus tard parce que la liaison est extrêmement difficile. Dès les premières minutes de ce carnage, les forces de l'ordre, bien évidemment, se sont mobilisées. Bonjour Guilhem Delteil.
Bonjour Alexandra.
Des interventions extrêmement rapides.
Oui, il y a eu tout d'abord les effectifs du 36 Quai des Orfèvres, le siège de la police judiciaire parisienne. Tous ont été mobilisés, a fait savoir le ministère de l'Intérieur, en l'occurrence 2600 personnes, donc pour faire les premières constatations, les premiers relevés sur place. Bref, commencer immédiatement l'enquête, mais surtout, Alexandra, mettre fin à ces attaques. La BRI, la Brigade de Recherche et d'Intervention, l'une des unités d'élite de la police, a ainsi rapidement lancé un assaut au Bataclan, où les terroristes étaient en train de tuer les spectateurs pris en otage. En parallèle, les effectifs de la sécurité publique ont eux été mobilisés pour sécuriser les sites, les axes de circulation. Ce sont là 800 policiers parisiens qui ont été déployés et qui ont reçu le renfort de 46 équipages, soit environ 150 personnes des communes proches de Paris. Grande mobilisation donc des forces de l'ordre affectées en permanence à Paris, mais des effectifs mobiles supplémentaires donc ont aussi été envoyés en renfort. Trois escadrons de gendarmerie, environ 200 personnes ont donc été sollicitées dès la première alerte. Quatre compagnies républicaines de sécurité, les CRS, ont elles été envoyées au Stade de France où ont eu lieu les premières explosions. Enfin, la gendarmerie a été chargée également de tenir les péages sur les autoroutes autour de Paris pour empêcher une éventuelle fuite des assaillants, mais aussi l'éventuelle arrivée de renforts terroristes.
Alors, on va continuer sur ce thème dans quelques minutes avec notre première invitée qui est en studio, Céline Berton. Avant cela, nous retrouvons Nicolas Falaise. Nicolas, vous êtes actuellement à la mairie du 11e arrondissement où une cellule psychologique a été mise en place.
Oui, la mairie du 11e arrondissement avec une scène un peu surréaliste il y a quelques minutes devant le bâtiment. Les invités venus assister à un mariage sont entrés dans le bâtiment sous surveillance policière, un mariage comme si la vie devait continuer malgré tout. Et je peux vous dire que les mines étaient graves et les sourires un peu crispés parmi ce petit groupe pénétrant dans la mairie. Alors oui, effectivement, une cellule de soutien psychologique a été mise en place pour venir en aide à des habitants qui peuvent avoir été choqués. D'autant qu'on est ici dans un quartier qui a déjà vécu un cauchemar cette année avec les attentats de Charlie Hebdo à quelques centaines de mètres seulement. Et puis devant la porte de la mairie, il y a une petite table. Dessus se trouve un bouquet de fleurs blanches et un registre de condoléances, un simple cahier d'écolier sur lequel chacun vient écrire un mot. Je vous en cite un seul. Notre arrondissement qui a fait la Révolution française ne doit jamais baisser les bras.
Nicolas Falaise en direct de la mairie du 11e arrondissement de Paris. N'hésitez pas à nous rappeler si vous avez de nouvelles informations. 12h18 à Paris, je vous rappelle que l'État islamique a revendiqué ses attaques hier à Paris et déclaré que la France demeurera une cible privilégiée tant qu'elle poursuivra la même politique. Dans ce studio avec nous, Céline Berton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire générale du syndicat des commissaires de la police nationale. La police était préparée à ce type d'attaque.
La police craignait ce type d'attaque. Ça fait maintenant quelques mois qu'on avait identifié ce risque. Le risque, c'était quoi ? C'était des attaques concomitantes qui visent des lieux très fréquentés dans le but de faire le maximum de victimes avec des cibles très mouvantes. C'est ce qui s'est passé. On le craignait, on s'y préparait. Alors les unités d'intervention s'y préparaient, les services de renseignement travaillaient sur ces sujets-là. On a beau y être prêt, pour autant, on a vécu hier des scènes qui ont complètement abasourdi les policiers. Je tiens à le dire, vous avez rendu rendu hommage à leur niveau de mobilisation. Je voudrais insister parce qu'ils ont effectivement été très nombreux à se mobiliser très vite. Les services du quotidien, la sécurité publique étaient immédiatement présentes. Les services d'investigation qui ont tous été rappelés pour venir procéder à une enquête qui va être de très longue haleine. Juste pour l'information de vos auditeurs, on s'attend à des constatations qui dureront probablement 2 jours complets au Bataclan, au regard de la scène que ça constitue. Les services d'intervention qui ont été une fois encore remarquables dans leur progression hier, hein, le RAID, la BRI, qui ont vécu l'enfer.
Les policiers très choqués. Hein,
oui, aussi. Ils avaient parlé, et je tiens à insister là-dessus, parce que on avait parlé de massacre au moment de Charlie Hebdo l'année dernière. En début d'année, je les ai eu en ligne une bonne partie de la nuit. Là, ils me parlent pas de massacre, ils me parlent pas d'horreur, ils me parlent d'enfer. D'amoncellement de cadavres, d'effectifs intervenants qui glissent dans le sang, de cris, du regard hagard des otages qu'ils parviennent à libérer. Donc ce sont des vraies scènes abominables qu'on a vécues, et notamment quand moi je l'entends dans la bouche de policiers qui sont des policiers aguerris, je trouve que ça évoque quelque chose. Et puis on va avoir effectivement un travail gigantesque pour les services de renseignement qui eux aussi sont mobilisés. Au maximum depuis hier, pour essayer de savoir à qui on a affaire. Je voulais insister sur ce point, si vous me le permettez juste une minute, parce que l'enquête va être longue, l'identification va être longue. La tentation, elle peut être de rechercher tout de suite des responsabilités, de savoir à qui on a affaire. Les terroristes se sont fait exploser. C'est la première fois que ça arrive en France, mais ça veut dire que pour trouver et pour les identifier, il va falloir qu'on fasse de la reconstitution extrêmement précise, et ça risque là aussi d'être un petit peu long.
Et quelle est la plus grande difficulté quand on intervient sur ce type de terrain ?
C'est d'abord évidemment la confusion qui règne. On a eu des scènes de tuerie en des lieux très proches et en des lieux très fréquentés mais très mobiles. Donc le temps qu'on comprenne ce qui se passait, le temps qu'on sache où étaient les auteurs, de les localiser, ensuite de déterminer de quelle manière ils sont présents dans des lieux où se trouvaient 1200 personnes hier, de déterminer non pas quelles sont leurs intentions, parce qu'elles sont assez claires, hein, avec l'État islamique, on ne négocie pas. On sait qu'ils n'en sortiront pas vivants et on sait qu'on ne parviendra pas à les faire se rendre. Mais c'est savoir dans quelle mesure on peut intervenir le plus rapidement possible pour pas leur laisser faire un nombre de victimes supplémentaires, tout en prenant toutes les mesures de sécurité pour pas provoquer un massacre supplémentaire. Et hier, la difficulté de la progression des services, et notamment du RAID et de la BRI, c'était de pas provoquer trop tôt le déclenchement des explosifs dont les individus étaient dotés et qui risquaient de faire un nombre de victimes encore plus important.
Céline Berton, dans 2 semaines, Paris accueillera la COP21. Quel dispositif de sécurité supplémentaire, et surtout la police peut-elle tenir sur la durée?
Ça va être une vraie question. D'ores et déjà, des mesures supplémentaires ont été prises dans le cadre du déclenchement de l'état d'urgence hier. On est en train de procéder à la suppression des mesures qui ne sont pas des mesures essentielles pour la sécurité nationale. Alors ça peut paraître aussi tout bête que la suppression des formations, la suppression des congés, tout ce qui fait qu'on pourra mobiliser le maximum de policiers dans la rue et sur les missions prioritaires pour protéger la population et identifier de potentiels autres terroristes.
Guilhem Deltaï, vous vouliez intervenir également ?
Oui, une question, Céline Berton. Il y a eu hier plusieurs incidents avant ces assauts simultanés, une alerte à la bombe, notamment dans l'hôtel de l'équipe d'Allemagne. Est-ce que, à votre connaissance, il y avait des raisons particulières de s'attendre à un assaut ce jour-là dans Paris?
Je suis pas en mesure de vous répondre, parce que j'ai fait le choix de pas harceler mes collègues pendant toute la nuit parce qu'ils avaient d'autres priorités. Et je voudrais être attentive aussi dans la réponse qu'on apporte, c'est que il faudrait surtout pas qu'on puisse laisser penser qu'on a pris à la légère des alertes. Au regard du niveau de mobilisation de l'ensemble des services depuis des mois et des mois, je peux vous garantir que s'il y avait eu des sujets sérieux d'inquiétude, les moyens auraient été mis en œuvre pour protéger. Donc il faut attendre un petit peu avant de gratter sur ce type de piste.
Merci beaucoup Céline Berton d'être venue jusqu'à nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale du syndicat des commissaires de la police nationale.
Édition spéciale sur RFI.
12h24 à Paris, RFI toujours en édition spéciale au lendemain des attaques, du carnage dans Paris. Et tout d'abord, on fait un point donc sur les dernières informations de la matinée avec vous, Bruno Faure.
Le groupe État islamique revendique les attentats de Paris. Dernier bilan, 128 morts et 250 blessés, dont une centaine très grièvement. Communiqué de l'organisation djihadiste, accusé un peu plus tôt par François Hollande. Brève allocution du président de la République qui décrète un deuil national de 3 jours. Le chef de l'État appelle les Français à l'unité. Au rassemblement et au sang-froid, il dénonce la barbarie absolue de ces attentats, un acte de guerre préparé, organisé, planifié de l'extérieur avec des complicités intérieures. François Hollande, qui demain dimanche recevra les présidents de l'Assemblée, du Sénat et les présidents de groupes parlementaires, il s'adressera lundi aux deux chambres du Parlement réunies en congrès à Versailles. Dès ce samedi, il a eu un entretien avec Nicolas Sarkozy, président du parti Les Républicains, qui appelle lui-même à mener une guerre totale contre le terrorisme et réclame des inflexions majeures pour renforcer la sécurité en France. Beaucoup de réactions à l'étranger, condamnation de Barack Obama, de Vladimir Poutine, d'Angela Merkel. Le grand imam de la mosquée Al-Azhar, institution de l'islam sunnite, dénonce des attaques odieuses et appelle le monde entier à s'unir. Plusieurs monarchies arabes, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, condamnent également et réclament une meilleure coopération internationale. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, estime que ces attentats justifient d'intensifier la lutte contre le groupe État islamique et contre le groupe Al-Nusra. À l'instant, réaction du président syrien Bachar al-Assad, la politique française au Moyen-Orient a contribué à l'expansion du terrorisme. D'un point de vue pratique, rapidement, les musées, les salles de spectacle sont fermées tout le week-end, de même que les installations sportives en Ile-de-France. Interdiction des manifestations sur la voie publique jusqu'à jeudi à midi. Les centres de don du sang sont débordés. Un numéro vert pour celles et ceux qui auraient des renseignements à fournir à la police. Le 0800 406 005.
Et on rappelle le bilan humain provisoire. 128 morts, 192 blessés. 80 personnes au moins se trouvent toujours entre la vie et la mort. Tous les hôpitaux restent placés en état d'alerte, réquisitionnés pour accueillir les victimes. C'est un carnage de guerre, témoigne sur Twitter l'urgentiste Patrick Peloux. Romain Lemaresquier, vous êtes en direct de l'hôpital Lariboisière. Le plan blanc d'extrême urgence a été déclenché. Comment cela se traduit dans l'hôpital où vous vous trouvez ?
Eh bien, ici même, si la situation semble sous contrôle et plutôt calme, on sent une tension lorsqu'on discute avec le personnel hospitalier qui nous a d'ailleurs demandé de ne pas rester dans l'enceinte de l'hôpital pour ne pas rajouter de la pression. Alors, selon nos informations, les différents hôpitaux de Paris se seraient répartis les blessés les plus graves, dont une bonne partie serait à l'hôpital Pompidou, le plus récent et le plus moderne de Paris. Mais à l'hôpital Lariboisière, on voit tout de même de nombreuses personnes venir demander si un proche aurait été admis ici. D'ailleurs, un numéro a été mis en place pour les personnes souhaitant savoir si justement un de leurs proches a été hospitalisé, le 01 40 27 40 27. Ce que l'on peut rajouter, c'est qu'un contrôle strict de l'information a été mis en place. Personne n'a le droit de donner des informations. Il faut passer par les supérieurs hiérarchiques, dont les numéros sont évidemment saturés. Et puis autre chose, l'hôpital Lariboisière est situé juste à côté de la gare du Nord, un lieu très fréquenté habituellement. Et ce matin, cette gare semble au ralenti. Beaucoup de gens qui envisageaient de venir à Paris aujourd'hui ont annulé leur déplacement. Et il n'y a pas que les trains qui sont vides, les réseaux de transport public parisien l'est également, ce qui semble, je vous l'avoue, irréel pour un samedi matin à Paris.
Romain Lemaresquier, face au nombre très impressionnant de victimes, des collectes de dons de sang ont été lancées. Est-ce que vous constatez une affluence de gens à l'hôpital Lariboisière ?
Alors, comme je vous disais à l'instant, les informations sont données au compte-gouttes et le personnel de l'hôpital Lariboisière ne souhaite pas se prononcer sur ce thème. Mais il semblerait que non, le calme est apparent dans cet hôpital. Il n'y a pas de queue, en tout cas visible, de gens qui souhaiteraient donner leur sang. Ce serait plutôt dans des centres de don du sang déjà établis dans Paris.
Romain Lemaresquier en direct de l'hôpital Lariboisière à Paris. Nous sommes à présent en ligne avec Patrick Clairvoix. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, spécialiste du stress, des traumatismes psychiques et de la prise en charge des victimes. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, L'effet Lucifer du décrochage du sens moral à l'épidémie du mal, est paru aux éditions CNRS. Des cellules de crise mises en place sur les lieux mêmes de ces attaques. Il faut faire face au choc. Comment on intervient ?
Alors, je pense qu'il faut intervenir directement et simplement. Premièrement, c'est être présent. Être présent, et pour ceux qui sont présents, ne pas répondre à une excitation, afficher un calme, ne pas laisser se développer des propos qui augmentent le désarroi des personnes. Ce sont des actes qui sont faits pour désorganiser la structure sociale, notre groupe, défaire les valeurs.
Et il estimait donc au lendemain de ces attaques, attaques revendiquées par l'État islamique. 128 morts, 192 blessés, c'est le dernier bilan humain provisoire de ce carnage. La France tout entière s'est réveillée meurtrie ce matin. Norbert Navarro, la presse française affiche également une seule couleur, le noir, et des titres sombres.
Oui, avec un mot à la une qui s'invite ce matin dans tous les quotidiens français, aussi bien le Parisien que le Figaro, notamment le mot « guerre ». Cette fois, c'est la guerre, lance le Parisien sur le fond noir d'une photo pleine page prise dans la nuit parisienne parmi les secouristes qui savent faire la guerre. La guerre en plein Paris, précise le Figaro, là encore sur fond noir et pleine page avec une photo de une prise à la Belle Époque. C'est un bar situé à l'angle des rues Faidherbe et des rues de Charonne dans le 11e arrondissement de la capitale et dont les assaillants surgissent d'une voiture à 21h30 locale, heure d'affluence en ce funeste vendredi 13, ont littéralement arrosé la terrasse à grande rafale d'armes automatiques. Sur cette photo couleur, dont le caractère sanguinolent est tout à fait exceptionnel à la une du Figaro, le lecteur distinguera aisément au moins quatre corps allongés à même le sol, dont un au premier plan, baignant dans une mare de sang. Carnage à Paris, confirme la une de Libération, avec pour la circonstance un S final au mot carnage, dans la mesure où les terroristes sont simultanément passés à l'action dans plusieurs lieux de l'agglomération parisienne. Ce vendredi 13 novembre 2015 restera comme l'un des jours les plus noirs de l'histoire déjà longue du terrorisme en France, énonce le Parisien. Dégoûté, en colère, le journal n'a pas de mots assez durs contre les auteurs de ces attentats qui ne sont selon lui que barbares de Dieu, soldats de pacotille dont l'héroïsme consiste à tuer des innocents parce qu'ils veulent mettre la France en état de choc, la sidérer, la paralyser, la diviser. Et le Parisien d'en appeler solennellement à la République pour prévenir que la France saura rester unie et faire front. C'est la pire tragédie jamais endurée dans le pays depuis la Seconde Guerre mondiale, souligne de son côté le Figaro. Le quotidien, à son tour, fait état de nombreux témoignages, dont certains affirmant que les assaillants ne portaient même pas de cagoule. Alors pour le Figaro, il s'agit là d'un très mauvais signe. Cela signifie sans doute qu'ils n'ont pas peur de mourir, remarque-t-il. Avant de faire le lien entre les attentats de la nuit dernière à Paris et l'engagement français dans la coalition anti-État islamique, l'accentuation de ses frappes en Irak ou encore la décision de déployer le mois prochain son porte-avions Charles de Gaulle dans le Golfe, une déclaration de guerre à laquelle les terroristes ont répondu par des scènes d'apocalypse, soupire le Figaro.
Alors dans les rédactions des journaux français, l'heure est tellement grave que le ton, Norbert, des éditoriaux s'en ressent également.
Oui, et pas qu'un peu, c'est d'abord à un élan de courage qu'à chaud la presse française invite ses lecteurs. Témoin le quotidien Libération qui enjoint la société française à s'armer de courage pour ne rien céder aux tueurs. Très tôt ce matin déjà, Libé ne voyait pas comment ne pas relier ces événements sanglants aux combats qui sont en cours au Proche-Orient. Pour autant, le confrère ne doute pas un seul instant de la conduite à suivre et à poursuivre. La France doit continuer son action sans ciller, martèle Libération. Et le journal en appelle à l'unité du pays, solide et volontaire, appuyée sur ses valeurs, afin de relever son plus grand défi. Premier quotidien français par son tirage, le journal Ouest-France n'écrit pas autre chose en invoquant le combat de la France, celui pour la liberté, la dignité et les droits de l'homme. Un combat contre l'obscurantisme et la régression, sermonne ce grand quotidien de l'Ouest de la France. Une fois de plus, nous saurons faire face, martèle Ouest-France. Le courage, mais aussi la révolte, comme celle que laisse éclater le journal L'Union. Jamais, écrit-il, jamais ce pays ne se couchera devant les terroristes parce que par le passé, ses aînés n'ont pas accepté le nazisme, le totalitarisme et que la patrie des droits de l'homme ne se laissera jamais impressionner. La barbarie ne passera pas, lance l'Union. De tels coups de menton dans la presse française depuis que je fais ce métier, laissez-moi souligner que pour moi, c'est du jamais lu.
Des accents de gravité, donc ce matin dans cette presse française, mais aussi des formules de circonstances.
Oui, comme celle forgée par la République des Pyrénées. Nous étions Charlie, nous sommes Paris, lance ce quotidien du sud-ouest du pays. La France est en guerre. Et le journal prévient, jusque-là, il fallait être militaire, policier, juif ou avoir dessiné le prophète pour être pris pour cible. Mais ce qu'ont signifié hier les terroristes, c'est que tous les Français, vous comme moi, sont désormais visés. On le voit, la presse française sonne l'alarme ce matin et j'aurais pu multiplier les exemples, Alexandra. La Charente libre, en conséquence, enjoint les Français à relever le défi lancé par Daesh de frapper partout et à tout moment. Et ce quotidien de l'ouest du pays, d'à son tour, proclamait la guerre mondiale dont la France devient, contre son gré, un des champs de bataille principaux, une guerre sans nom. À Paris comme ailleurs.
Norbert Navarro, donc, pour ce qu'il y avait dans la presse française ce matin. On vous retrouve un peu plus tard pour faire un point sur ce que dit la presse internationale ce matin. 12h39 à Paris, RFI en édition spéciale jusqu'à 14h. Le parquet de Paris a donc ouvert une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste sur ces attaques. Nous sommes en ligne actuellement avec Alain Chouet. Bonjour.
Bonjour.
Ancien chef du service des renseignements, la DGSE. 8 kamikazes ont opéré, 8 personnes qui ont agi de concert. C'est du jamais vu, la méthode est nouvelle.
Oui, c'est nouveau. Les médias ont rendu compte de la nature des attaques, mais c'est la première fois effectivement qu'on a affaire à des professionnels de la violence qui ont une détermination kamikaze. Ça n'était évidemment pas le cas des amateurs comme Sid Ahmed Glam ou le tireur du Thalys ou l'homme au couteau qui a été arrêté récemment à Toulon. On a changé d'échelle.
Alain Chouet, pourquoi ce lieu a-t-il été choisi par les terroristes?
Oh là, je ne sais pas s'ils ont vraiment choisi. Ils ont choisi d'intervenir où ils pouvaient, comme ils pouvaient, quand ils pouvaient. On sait que le vendredi soir, les Parisiens sortent, surtout qu'il fait doux et beau, qu'il y avait des manifestations, mais il y en a tous les vendredis soirs à Paris. Ils ont choisi des cibles qui étaient à leur portée. Je ne pense pas que les cibles soient en elles-mêmes très significatives, au-delà du fait qu'il y avait beaucoup de monde rassemblé et que c'était un moyen de frapper les imaginations au maximum.
David Thompson est en studio avec nous et il n'est visiblement pas d'accord avec vous, Alain Chouet.
Bah, en tout cas, c'est ce que conteste l'État islamique, puisque dans leur communiqué de revendication, ils expliquent bien qu'ils ont visé spécifiquement un match en raison de l'affiche France-Allemagne, deux pays croisés, membres de la coalition selon leur terminologie, qu'ils ont choisi une salle de concert et il y a eu plusieurs fois ces dernières semaines des menaces contre des salles de concert diffusées par des combattants français de l'État islamique de façon non officielle, c'est-à-dire non dirigée par la haute hiérarchie de l'État islamique. Donc c'est des cibles qui, à mon avis, au contraire, ont été spécifiquement choisi et c'est pas un hasard si c'est ces cibles-là qui ont été choisies. Par ailleurs, si la thèse d'un véhicule se confirme, un véhicule qui aurait tourné dans le 11e arrondissement et ouvert le feu, là on rentre tout à fait dans l'iconographie de l'État islamique qu'on a déjà constaté dans des vidéos qui sont des vidéos cultes pour les partisans de l'État islamique, comme la fameuse vidéo Salil Sawarim, où là on voit effectivement en Irak qu'ils exécutent des personnes de cette façon-là. Donc c'est vraiment la méthode, la marque de fabrique de l'État islamique.
Alain Chouet, vous voulez répondre ?
Non, effectivement, ce sont des choses significatives. Il aurait pu y en avoir d'autres. Hein. On frappe comme on peut, quand on peut, où on peut. En ce qui concerne le Stade de France, je pense qu'ils souhaitaient pouvoir entrer dedans. Ils n'ont pas pu. Ils se sont fait exploser à l'extérieur. C'est vrai que ce sont des cibles à fort retentissement médiatique. Maintenant, ils auraient pu en prendre d'autres. Hein. C'est pas. Mais de toute façon, leur but, c'est effectivement de faire parler un maximum d'eux et d'enrichir, comme le dit Thompson, l'iconographie de l'État islamique.
Alors le parquet de Paris, on l'a dit, a ouvert une enquête. Comment on mène ce type d'enquête? Comment la police va-t-elle faire pour identifier les kamikazes et remonter les filières?
Elle veut utiliser toutes les techniques habituelles de la police scientifique. Je ne sais pas si ces gens-là ont déjà fait l'objet de relevés d'ADN, etc. Mais on va examiner à la loupe leurs affaires, d'où ils viennent, leurs voitures, leurs armes, etc. Là, on entre vraiment dans un travail de longue haleine de la police scientifique pour remonter à l'identification des personnes qui sont intervenues.
David Thompson?
La question qui va se poser maintenant, c'est de savoir si ces gens-là sont des gens qui ont été formés en Syrie, sur le sol syrien ou sur le sol irakien, ou alors en France. Pour l'instant, on n'a pas encore la réponse à cette question-là, puisque les terroristes n'ont pas été identifiés. Mais au sein de l'État islamique, les brigades de kamikazes sont des brigades qui sont pas formées n'importe comment. Les gens sont sélectionnés en fonction de qualités psychologiques, si j'ose dire, bien spécifiques, c'est-à-dire qu'ils prennent des gens qui sont très déterminés pour être sûrs qu'ils ne vont pas flancher au dernier moment. Ils suivent une formation spécifique avec un commandement spécifique. C'est des brigades à part au sein de l'État islamique. Donc là, ça veut dire qu'une brigade entière de kamikazes a frappé la France. A priori, on imagine mal que ces gens-là aient pu être formés et sélectionnés sur le territoire national. Mais c'est possible. Mais si c'est le cas, ça veut dire que 8 kamikazes ont pu rentrer de façon clandestine en France, s'armer lourdement, vider leurs chargeurs au cœur de la capitale française, confectionner les ceintures d'explosifs, ce qui n'est quand même pas rien.
Alain Chouet, on peut parler d'un terrible échec pour le renseignement ?
On peut pas. On est dans un pays où on peut pas mettre un gendarme derrière chaque citoyen. C'est certainement un échec dans la mesure où, pendant ces derniers mois, voire ces dernières années, on a beaucoup privilégié le renseignement technique par rapport au renseignement humain. Or, on est clairement dans une configuration où pratiquement seul le renseignement humain peut apporter des éléments valables, parce que ce sont des gens les gens auxquels on a affaire maintenant, l'État islamique, mais même avant Al-Qaïda, étaient des gens qui étaient parfaitement rompus à dissimuler leur communication et à faire autrement, et sur lesquels le renseignement technique n'est pas d'une grande valeur. Et on a vu aux États-Unis à quel point le dragage massif de données ne donnait pas des résultats extraordinaires. Alors oui, en ce sens, je pense qu'on a subi un échec en matière d'appréciation de la menace par les voies ordinaires du renseignement humain.
David Thompson veut intervenir à nouveau.
Oui, c'est vrai, de toute façon, ça fait des mois que tous les services de renseignement et les autorités officielles françaises disent qu'elles s'attendent à un attentat d'ampleur, parce que finalement aucun système au monde n'est véritablement infaillible face à ce genre d'attaque. Ça, c'est une réalité aussi. Un certain nombre d'attaques ont été déjouées, mais les services de renseignement savaient que, vu l'ampleur inédite en termes de nombre de djihadistes français qui se trouvent en Syrie et en Irak aujourd'hui, et du niveau de menace contre la France, qui est le pays le plus ciblé, le plus menacé par la propagande djihadiste, en particulier de l'État islamique, les services de renseignement savaient que face à cette situation inédite, d'une ampleur inédite, tôt ou tard, un attentat de ce type risquait de se produire. Et ce qui est également fort probable, c'est que on rentre dans une phase où ce type d'attentat va se reproduire de façon assez régulière.
Je me tourne à présent vers Guilhem Deltel. Guilhem, beaucoup de questions à Presse Carnage et autour de cette enquête. Qu'est-ce que l'on sait concrètement pour le moment ?
Eh bien, pour le moment, on ne sait pas grand-chose, effectivement. Et c'est vrai que l'enquête, Céline Berton le disait tout à l'heure, sera longue. Elle part déjà de 48 heures, ne serait-ce que pour faire les relevés à l'intérieur du Bataclan. Et comparé aux attentats qu'on a connus au mois de janvier, effectivement, on sent bien la difficulté qui se dessine là pour les forces de l'ordre. À cette période-là, ce temps à peu près après les attaques en janvier, on commençait déjà à avoir une idée un peu précise de qui était derrière, quel était le parcours des frères Kouachi qui avaient donc mené cette assaut contre Charlie Hebdo. Là, on a bien peu d'éléments pour le moment qui ont filtré de ces premiers éléments de l'enquête. Donc, ce qu'on a finalement, eh bien, c'est cette accusation du président de la République qui désignait le groupe État islamique comme étant à l'organisation derrière ces attaques. Une accusation confirmée par le groupe lui-même, finalement, il y a quelques minutes, par ce communiqué publié sur Internet, où il revendique avoir mené ces assauts. Mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'éléments tangibles de plus. On sait aussi que les forces de l'ordre travaillent, David l'évoquait, savoir la question de, est-ce que ce sont des personnes qui ont été formées à l'extérieur, en l'occurrence plutôt en Syrie, et qui sont revenues après, ou est-ce que ce sont des terroristes qui ont été recrutés en France. Les forces de l'ordre, là, travaillent sur des profils de terroristes plus entraînés, mieux préparés que ce qu'on a connu comme incident ces derniers mois, voire les attaques du mois de janvier et les attentats déjoués que ce soit à Villejuif, dans le Thalys ou près de Toulon, où les différents attentats déjoués donc sur le territoire français ces derniers mois. La priorité, Céline Berton le disait tout à l'heure, c'est l'identification donc des corps, particulièrement ceux des assaillants. 8 d'entre eux sont morts, 7 en kamikaze, 1 a été tué au cours de l'assaut de la BRI au Bataclan. Des tests ADN sont en cours actuellement, Alexandra, pour établir leur identité, mais pour établir aussi leur nationalité, pour savoir s'ils viennent donc du territoire français. Des analyses scientifiques sont par ailleurs en cours sur une voiture suspecte retrouvée près du Bataclan, une voiture immatriculée en Belgique. Les enquêteurs cherchent à savoir si là aussi elle est liée à ces attaques, et le scénario qui se dessine finalement, c'est donc qu'au moins 2 commandos ont mené ces attaques, l'un à Saint-Denis, l'autre dans Paris. Un scénario que vient d'ailleurs appuyer la revendication de l'État islamique, dans laquelle le groupe affirme que 8 personnes ont mené ces attaques. 8 personnes, Alexandra, eh bien c'est le nombre de terroristes morts hier soir. Cela voudrait dire donc qu'il n'y en a pas en fuite. Une information que se refusait de donner hier le ministère de l'Intérieur et qu'il n'a toujours pas confirmé non plus. La place Beauvau se veut extrêmement prudente. Reste que si les assaillants sont morts, eh bien l'enquête devra aussi déterminer les complicités dont ils ont pu bénéficier.
David Thompson, c'est une nouvelle génération de terroristes qui a frappé hier.
C'est une nouvelle génération de terroristes, oui et non, puisque ce type d'attaque avait déjà été constaté, notamment les fameux attentats de Bombay, avec des gens qui sont arrivés dans un hôtel et qui ont ouvert le feu sur des touristes, mais en France c'est inédit. Et c'est vrai qu'au sein de l'État islamique aujourd'hui, il y a effectivement une nouvelle génération de jeunes qui sont âgés de 20-25 ans, qui sont des jeunes qui sont nés en France, pour beaucoup d'entre eux, qui ont grandi en France et qui ont été séduits par l'idéologie et la propagande proposée par l'État islamique, et qui aujourd'hui ont tous pour consigne de tuer des ressortissants français en représailles aux frappes de la coalition, aux frappes dont la France, coalition dont la France est membre. C'est une consigne officielle de l'État islamique, et pour m'être entretenu avec un certain nombre d'entre eux, certains ont vraiment ce désir de frapper la France et de tuer des ressortissants français. Leur idée, c'est de, selon leur expression, hein, la terminologie qu'ils utilisent, c'est de dire, voilà, nous appliquons une forme de loi du talion, la France fait la guerre à l'étranger, nous importons la guerre sur le territoire national.
Avec des similitudes, hein, donc avec des actions récentes menées par les djihadistes hors du territoire français.
Hors du territoire français, oui, absolument, puisque l'État islamique aujourd'hui est présent dans un certain nombre de pays. Ces derniers jours, l'État islamique a revendiqué une opération extrêmement spectaculaire, l'attentat contre le vol russe dans le Sinaï. Ça, c'était également inédit. Donc on voit, en termes terroristes, l'État islamique clairement monte en puissance, réalisant des opérations que les services de renseignement jusqu'à maintenant écartaient, mettaient plutôt sur le compte d'Al-Qaïda, par exemple. Les services de renseignement pensaient que un groupe comme l'État islamique n'était pas en mesure de faire tomber un avion ou de réaliser un attentat d'ampleur comme ça sur le sol français, même si c'était quelque chose qui se profilait véritablement. Là, on est clairement passé, comme le disait Alain Chouet, à une phase supérieure avec cet attentat en France.
Alain Chouet, est-ce qu'il faut réfléchir dorénavant à une autre organisation de la sécurité dans les grandes villes, puisque on voit ces attaques révèle aussi les limites ou tout simplement l'impossibilité de faire plus pour le renseignement?
Certainement, mais ça s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus vaste, comme l'a souligné Thompson, parce que moi, ça fait presque un an que les services de renseignement agitent le drapeau d'alerte pour essayer de faire comprendre que le jour où l'État islamique perdrait pied militairement sur le terrain, il dégénérerait stratégiquement, comme l'a fait Al-Qaïda dans la période 98-2001, et qui dériverait vers des formes d'action terroriste internationale pour continuer à conserver une crédibilité, pour exister politiquement, pour continuer à recevoir des soutiens extérieurs. On en est à ce point-là. L'intervention russe a changé la donne au Moyen-Orient, elle a changé la donne en matière terroriste. Et les attentats de Paris, pour moi, s'inscrivent dans la continuité de ce que Thompson a dit, de l'attentat contre l'avion russe, mais aussi des attentats kamikazes de Beyrouth il y a 2 jours et des attentats à Bagdad. L'État islamique essaye maintenant, qui avait une violence territorialisée, se détériorise pour continuer d'exister à un moment où il est en phase difficile sur le plan militaire. Alors faire face à des attentats terroristes comme ceux d'hier, c'est extrêmement difficile dans une démocratie. Il faut quand même prendre conscience qu'il s'inscrit effectivement dans ce que Thompson disait, une guerre assez générale.
généralisée, nous sommes en guerre et nous devons en prendre conscience et il faut finir cette guerre. Tant qu'elle ne sera pas finie, nous exposerons à des attentats de ce genre parce qu'on ne peut pas mettre dans ce pays un gendarme derrière chaque citoyen.
Thompson, David de son prénom, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
C'est vrai que effectivement cet attentat coïncide avec une phase de recul militaire sur le terrain pour l'État islamique, notamment en Irak. Les Kurdes ont repris la ville de Sinjar, qui était une ville stratégique. Il y a une ville aussi stratégique côté syrien au sud d'Assaka qui a été perdue par l'État islamique, la ville de El Hol. Donc ça veut dire que l'axe Raqqa-Mossoul est quasiment coupé pour l'État islamique. Donc effectivement, sur plusieurs fronts, on constate pour presque la première fois que l'État islamique recule. Et c'est vrai que cette phase d'attentat coïncide avec ce recul militaire sur le terrain.
Alain Chouet, est-ce à craindre d'autres attaques dans les jours, les semaines à venir?
Oui, encore que il est possible, et j'espère, moi, que dans cette affaire, l'État islamique a utilisé une grande partie de la réserve opérationnelle qu'il pouvait avoir en France, parce que je rejoins David Thompson sur le fait que ces gens ont probablement été formés sur place, on n'a pas affaire aux amateurs auxquels on a eu affaire jusqu'à maintenant, qu'ils ont jeté une bonne partie de leur réserve opérationnelle dans cette affaire. Je l'espère, j'en suis pas sûr, et en tout cas, il faut se préparer à rentrer, comme l'avait dit Manuel Valls, dans une phase où nous serons confrontés au terrorisme au quotidien.
Merci beaucoup Alain Chouet d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes ancien chef du service de renseignement de sécurité de la DGSE.
Édition spéciale sur RFI.
Édition spéciale jusqu'à 14h. Nous allons retrouver Nicolas Falaise. Nicolas Falaise qui se trouve à la mairie du 11e arrondissement. Arrondissement touché de plein fouet donc hier par ces attaques. Nicolas, une cellule psychologique a été mise en place à la mairie. Nicolas, vous m'entendez ?
Oui, je disais, j'ai pu m'entendre il y a quelques instants avec l'un des psychiatres en charge de cette cellule. Il vient de Lille, hein, dans le nord de la France. Il est arrivé ici à Paris vers 5h ce matin et sa première mission avec ses collègues était d'effectuer une maraude, hein, une sorte de patrouille dans le quartier à la recherche de personnes qui pourraient errer, déboussoler, choquées par les événements de la nuit dernière. Ensuite, dans un deuxième temps, après cette maraude, la cellule a été ouverte dans la salle des fêtes du 11e arrondissement de Paris. Et à l'heure où nous parlons, plusieurs dizaines de personnes ont déjà été reçues par les médecins psychiatres en charge de cette cellule. Ces personnes nous racontent l'horreur, me disait le psychiatre avec qui j'ai pu m'entretenir. Ce sont des personnes en état de choc. Certaines sont encore en état de sidération. D'autres sont déjà dans l'émotion et elles racontent des scènes de guerre, ces personnes reçues ici en mairie du 11e. Certaines de ces personnes choquées, ce sont des gens qui étaient en première ligne hier, qui étaient pour certains d'entre eux au Bataclan, qui ont donc vécu les événements de très près. D'autres les ont vécus de façon plus indirecte, mais sont également choqués. Notre rôle, me disait le psychiatre avec qui je parlais tout à l'heure, c'est d'aider ces gens à recoller avec la réalité, à revenir sur Terre. Ce sont les termes qu'il a employés. Ces personnes reçues ici en mairie du 11e ne sont pas pour l'instant emmenées vers les hôpitaux, car les hôpitaux qui sont submergés par l'afflux de blessés auraient du mal à accueillir en plus des personnes en besoin de traitement psychiatrique. Donc ce n'est pas pour l'instant la procédure. Et donc elle se poursuit ici, au moins toute la journée, à la mairie du 11e arrondissement. Et il faut rappeler que ce dispositif de cellule d'aide psychiatrique, eh bien, il date de 1995, année où déjà Paris avait été frappé par une attentat.
Nicolas Falaise, il y a beaucoup de monde depuis ce matin qui se présente au sein de cette cellule psychologique?
Alors, je vous disais plusieurs dizaines de personnes, une quarantaine depuis 5h, lorsque cette équipe venue de Lille, dans le nord de la France, a pris le relais d'une équipe de région parisienne qui, elle, avait accueilli les premières personnes choquées juste après les attaques d'hier soir. De façon tout à fait estimative, le psychiatre avec qui j'ai pu m'entretenir parlait d'environ 80 personnes qui étaient déjà passées ici à la mairie du 11e. Alors il faut noter que la mairie a souhaité maintenir les mariages programmés prévus en mairie du 11e arrondissement. Et donc, à l'entrée, les forces de l'ordre doivent gérer deux flux tout à fait différents, à la fois les invités qui viennent assister aux cérémonies de mariage en mairie, et puis ces gens reçus, accueillis, écoutés par la cellule d'urgence médico-psychologique.
Nicolas, cette cellule est prévue pour rester en place longtemps ?
Alors, point d'interrogation, certitude jusqu'à ce soir. Après, le médecin rencontré avait des doutes sur la durée du dispositif, sachant que d'ores et déjà, une partie des personnes reçues sont orientées vers leur médecin traitant, et qu'ensuite, ce sera vers les consultations psychiatriques des hôpitaux. Mais encore une fois, ça n'est pas possible dans l'immédiat, puisqu'aujourd'hui, la première urgence, la priorité pour ces hôpitaux parisiens, c'est de faire face à l'afflux de blessés. Suite aux attaques d'hier soir.
Nicolas Falaise, en direct de la mairie du 11e arrondissement de Paris. Restez bien sûr avec nous. RFI en édition spéciale pendant encore une heure, donc après les attaques hier dans Paris. On rappelle le bilan humain provisoire, bien évidemment. 128 morts, 192 blessés, 80 personnes qui restent actuellement entre la vie et la mort. Et puis, on apprend à l'instant que malgré tout, malgré ces attaques, eh bien, la conférence de Paris sur le climat qui doit débuter le 30 novembre sera maintenue. Restez à l'écoute.